Ah, mais j'embrasse la littérature, c'est sûr, enfin, j'essaie en tout cas.
Lire, vivre, ça redonne envie de vivre.
Mais ce qu'il y a de plus passionnant pour moi, de plus vivant, c'est les livres.
J'ai une très bonne hygiène, je lis à peu près 200 livres par an.
Les livres sont une merveilleuse invention, vous ne trouvez pas ? De page en onde. Quand les livres se font voix, quand la radio rencontre la littérature.
Je revois mon lointain passé, les beaux instants que je ne suis jamais qu'effleurer, et que pille sans pitié la folie implacable du temps. À quoi sert de pleurer ? Saisissons au contraire en son étui le violon des jours anciens, et faisons-le gémir sous l'archet de mystère pour mieux ressusciter ce dont il nous souvient.
Nous allons dédier l'émission d'aujourd'hui à notre public du mercredi 26 mars dernier, où les liserons ont lu pour les personnes âgées de la résidence Novage, avec le plus grand plaisir, en présence de fringants vieux messieurs et vieilles dames, qui ont accueilli notre lecture avec beaucoup de plaisir et qui nous ont rendu aussi de beaux moments de lecture. Et donc, pour commencer cette émission sur les plaisirs de la vie que nous avons conçu comme une sorte de chemin de plaisir en plaisir, et nous en avons laissé certains de côté parce qu'on n'avait pas assez de temps, nous allons évoquer une sorte de résurrection par la gourmandise. Le personnage dont il est question, qui s'appelle Aviaja, est une vieille esquimaude qui a choisi de déchausser ses kamiks, c'est-à-dire en fait de se laisser mourir de froid sur la glace, parce que le garçon qu'elle avait élevé est parti en Europe et qu'elle a le sentiment de ne plus être utile à rien. Et les hommes, les chasseurs avec lesquels elle partage sa vie, ont préparé un repas absolument extraordinaire pour la ramener à la vie. Et voici l'épisode. C'est un texte de Jørn Rill, Le piège à renard du Seigneur, la maison de mes pères.
Louis fut le premier à se glisser auprès d'Aviaja. Son visage rayonnait de fierté professionnelle. L'un après l'autre, les plats lui furent passés et il les disposa en demi-cercle devant la femme mourante. D'abord, des mergules nains, légèrement rissolés, dans une sauce noire à l'aspect de gelée, puis une marmite avec trois mouettes rôties nageant dans une délicieuse sauce composée de graisse de renne et de crevettes. Suivait un petit plat ovale avec des amuse-gueules composés d'intestins de canard, de morceaux de rognon minuscules, de foie de canard rôti, d'yeux de phoque cuits et salés, et de langue de renne en tranches fines comme du papier. Puis les camarades lui firent passer un réchaud allumé qui avait pour fonction de maintenir chaud le plat principal. Suivait enfin une gigantesque marmite de fer remplie à ras-bord de viande de jeune phoque, cuite à point, le plat favori d'Aviaja. Le point final à toutes ces merveilles était un bol de salade. Le contenu en avait été pêché dans l'intestin d'un grand phoque à capuchon. En général, ce plat se dégustait en découpant l'intestin en morceaux et en faisant sortir le contenu par pression, comme on fait sortir du tirage du tube. Mais en l'honneur du jour, Louis avait disposé sa salade dans un petit bol en bois et l'avait garni de baies de corneille et de petits morceaux d'algues luisants. Aviaja, qui à ce moment-là approchait du stade de la congélation, sentit la forte odeur de nourriture et d'une voix à peine audible, demanda « Est-on déjà au pays des heureux ?»
Nous allons maintenant entamer notre promenade dans les sensations et les plaisirs avec un poème de Rimbaud. Sensation.
Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme et j'irai loin, bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.
Force de marcher, on se fatigue et même on déchire ses bottines. Autant faire une halte au cabaret vert, 5 heures du soir.
Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines aux cailloux des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie, et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, ce n'est pas un baiser qui l'ait peur, rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail, et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré.
Notre promeneur au fil des plaisirs, devenu une promeneuse, va se reposer autour de son omuche, la cabane de chasseur dans laquelle elle a élu domicile, et va faire une petite promenade dans les étangs du côté de Flixecourt en Picardie. C'est un texte d'Hector Malot, extrait d'En famille.
Le soir, elle eut l'idée de se promener dans les prairies qui entouraient son île, ce qu'elle n'avait pas encore eu le temps de faire. La soirée était d'une beauté radieuse, tiède et d'une clarté tamisée qui montrait les cimes des arbres baignés dans une vapeur d'or pâle. Les foins, qui n'étaient pas encore mûrs, mais dont les plantes défleurissaient déjà, versaient dans l'air 1000 parfums qui se concentraient en une senteur troublante. Sortie de son île, elle suivit la rive de l'Entaille, marchant dans les herbes hautes qui, depuis leur pousse printanière, n'avaient été foulées par personne, et de temps en temps se retournant, elle regardait à travers les roseaux de la berge son omuche qui se confondait si bien avec le tronc et les branches des sols que les bêtes sauvages ne devaient certainement pas soupçonner qu'elle était un travail d'homme, derrière lequel l'homme pouvait s'embusquer avec un fusil.
Au moment où, après un de ses arrêts qui l'avait fait descendre dans les roseaux et les joncs, elle allait remonter sur la berge, un bruit se produisit à ses pieds qui l'effara, et une sarcelle se jeta à l'eau en se sauvant effrayée. Alors, regardant d'où elle était partie, elle aperçut un nid fait de brins d'herbe et de plumes, dans lequel se trouvaient 10 œufs d'un blanc sale avec de petites taches de couleur noisette. Au lieu d'être posée sur la terre et dans les herbes, ce nid flottait sur l'eau. Elle l'examina pendant quelques minutes, mais sans le toucher, et remarqua qu'il était construit de façon à s'élever ou s'abaisser selon la crue des eaux, et si bien entouré de roseaux que ni le courant, si une crue en produisait un, ni le vent ne pouvait l'entraîner.
De peur d'inquiéter la mer, elle alla se placer à une certaine distance et resta là, immobile. Cachée dans les hautes herbes où elle avait disparu en s'asseyant, elle attendit pour voir si la sarcelle reviendrait à son nid. Mais comme celle-ci ne reparut pas, elle en conclut qu'elle ne couvait pas encore et que ses œufs étaient nouvellement pondus. Alors elle reprit sa promenade et de nouveau, au frôlement de sa jupe dans les herbes sèches, elle vit partir d'autres oiseaux effrayés. Des poules d'eau, si légères dans leur fuite qu'elles couraient sur les feuilles flottantes des nénuphars sans les enfoncer. Des râles au bec rouge, des bergeronnettes sautillantes, des troupes de moineaux qui, dérangées au moment de leur coucher, la poursuivaient du cri auquel ils doivent leur nom dans le pays, cracra.
Allant ainsi à la découverte, elle ne tarda pas à arriver au bout de son entaille et reconnut qu'elle se réunissait à une autre plus large et plus longue, mais par cela même beaucoup moins boisée. Aussi, après avoir suivi dans la prairie une de ses rives pendant un certain temps, s'expliqua-t-elle, pas que les oiseaux y fussent moins nombreux.
C'était son étang, avec ses arbres touffus, ses grands roseaux foisonnants, ses plantes aquatiques qui recouvraient les eaux d'un tapis de verdure mouvante, que ce monde ailé avait choisi parce qu'il y trouvait sa nourriture aussi bien que sa sécurité. Et quand, une heure après, en revenant sur ses pas, elle le revit à demi noyé dans l'ombre du soir, si tranquille, si vert, si joli, elle se dit qu'elle avait eu autant d'intelligence que ses bêtes de le prendre elle aussi pour nid.
S'asseoir tous deux au bord du flot qui passe, le voir passer tous deux s'il glisse un nuage en l'espace, le voir glisser à l'horizon s'il fume un toit de chaume, le voir fumer aux alentours si quelques fleurs embaument son embaumure, entendre au pied du sol où l'eau murmure, ah, temps que ce rêve dure. Le temps duré mène après tant de passions profondes qu'à s'adorer sans nul souci des querelles du monde. Devant tout ce qui lasse, sans se lasser, sentir l'amour devant tout ce qui passe, ne point passer, sentir l'amour devant tout ce qui passe.
Et quel plaisir que celui de la rencontre amoureuse, selon Marie-Noël, poétesse née et morte à Auxerre, dont la simplicité apparente, en réalité si savante, rejoint celle de la chanson traditionnelle.
Chanson. Quand il est entré dans mon logis clos, j'ourlais un drap lourd près de la fenêtre, l'hiver dans les doigts, l'ombre sur le dos. Sais-je depuis quand j'étais là, sans être ? Et je cousais, je cousais, je cousais. Mon cœur, qu'est-ce que tu faisais ? Il m'a demandé des outils à nous. Mes pieds ont couru si vifs dans la salle qu'ils semblaient si gais, si légers, si doux, deux petits oiseaux caressant la dalle. De ci, de là, j'allais, j'allais, j'allais. Mon cœur, qu'est-ce que tu voulais ? Il m'a demandé du beurre, du pain. Ma main, en l'ouvrant, caressait la huche, du cidre nouveau, j'allais, et ma main caressait les bols, la table, la cruche. Deux fois, 10 fois, 20 fois, je les touchais. Mon cœur, qu'est-ce que tu cherchais ? Il m'a fait surtout 36 pourquoi. J'ai parlé de tout, des poules, des chèvres, du froid et du chaud, des gens, et ma voix, en sortant de moi, caressait mes lèvres. Et je causais, je causais, je causais, mon cœur. Qu'est-ce que tu disais ? Quand il est parti, pour finir l'ourlet que j'avais laissé, je me suis assise. L'aiguille chantait, l'aiguille volait, mes doigts caressaient notre toile bise. Et je cousais, je cousais, je cousais, mon cœur, qu'est-ce que tu faisais ?
N'est-ce pas qu'il est doux de marcher côte à côte parmi les chemins ténébreux ? Les astres inclinés à leurs fenêtres hautes jettent du fond du ciel sur nous leurs regards bleus. N'est-ce pas qu'il est doux, d'une douceur suprême, de ne se voir que la flamme des yeux, et d'être dans l'ombre où Dieu sème le grain merveilleux du destin, pareils à deux fantômes, à deux anges, qui n'auraient plus que l'âme et dont les pas étranges s'en iraient chercher le bonheur prochain aux marches de lumière du matin ? Ainsi je te parlais quand la pluie est venue, sur les astres éteints se replia la nue. Nous sommes assis au détour du chemin, et je t'ai prise contre moi toute menue, sans oser d'autre exploit que ta main dans ma main.
L'arbre en fleurs au milieu du clos, dès qu'en son vieux cœur eut éclos le nid de mes anges, s'est soudain mis à neiger, sous l'haleine du vent léger, des plumes d'ange. Tout mon cœur de printemps grisé, dès que dans l'ombre ton baiser eut trouvé ma lèvre, s'est mis à jeter au vent, tant de chansons d'amour vivant que j'en ai fièvre.
C'était deux poèmes de Phileas Lebeg, qui a passé, poète paysan, qui a passé toute sa vie à La Neuville-Vaux et qui a écrit une très abondante œuvre poétique et aussi romanesque. Comme elle était belle à genoux, le regardant et des deux mains lui enserrant les hanches en un geste d'oraison, les hanches émouvantes d'étroitesse, hanches de son homme. « Laissez-moi vous regarder, dit-elle, et elle recula pour le voir en entier, le détailla, lui sourit, ô dents parfaites de jeunesse. »
« Elle doit peser 60 kilos, et là-dessus 40 kilos d'eau, pensa-t-il. Je suis amoureux de 40 kilos d'eau, pensa-t-il.
« À quoi pensez-vous » demanda-t-elle.
« À Timmy, » dit-il.
Elle lui demanda de raconter, car elle aimait l'entendre parler de cette chatte exquise, hélas morte.
Il raconta n'importe quoi.
que Timmy était parfois grosse et boudeuse, parfois menue et angélique d'amitié, parfois se sustentant sans cesser de ronronner, petite tête penchée sur sa pâtée, parfois sage comme une image, les yeux levés, patiente, parfaite, parfois rêvant à des temps anciens, immémoriales.
Encore, demanda-t-elle.
Alors il raconta que Timmy voulait sans cesse être caressé, parce que l'héréditaire peur du danger était toujours présente et que les caresses la rassuraient. Être caressé, c'était n'être pas en péril.
« Moi aussi, je veux être rassurée, dit-elle, et elle se rapprocha. Tenue par lui, tête renversée, elle entr'ouvrit les lèvres comme une fleur éclose, et ils burent l'un à l'autre, soigneux, profonds, perdus. Et ce fut le grave langage, soudain furieux langage de jeunesse, longue lutte mouillée, lèvres et langues unies. Plus bas maintenant, osa-t-elle imperceptiblement murmurer. Plus bas maintenant, osait-elle parfois murmurer après les baisers, honteuse de sa demande, parfois entr'ouvrant elle-même le haut de la robe, et il se penchait alors sur le sein, nu, elle aussitôt fermant les yeux pour avoir moins honte et ne rien savoir, ne savoir que la magique nuit où elle entrait, attentive aux suavités qui circulaient, eau, elle, amollie et fondue, muette aux écoutes d'une agonie exquise. Parfois sortant du silence par un râle d'approbation, parfois l'encourageant et le remerciant par de lentes, hésitantes caresses sur les cheveux, parfois osant lui murmurer de prendre l'autre maintenant. « Je t'aime », ajoutait-elle aussitôt pour se réhabiliter, pour mettre de l'âme, et de nouveau elle râlait, les yeux fermés, privée de pensée, animale, respirant avec un bruit de salive ramenée, née du délice de lui sur l'autre sein penché. Oh, qu'il reste longtemps, qu'il ne passe pas trop vite au reste, osait-elle penser.
Lorsqu'il s'écartait pour la regarder, exposée, si belle, elle restait immobile, lèvres ouvertes et tête abattue, souriante et stupide, bien heureuse d'être impuissante et à sa merci, attendant la reprise. Et c'était de nouveau la nuit de velours, l'exquise torture par son amant penché. Mais soudain, elle le prenait par les épaules, l'amenait contre elle, lui disait d'être en elle.
Nuit des débuts, longue nuit balbutiante, incessante reprise du désir, enlacement, secret murmure, chocs rapides et lourds, fureur battante, Ariane servile, hôtelle et victime, parfois refermant ses dents sur le cou de l'aimé en une morsure plaintive. Oh, ses yeux blancs de sainte extasiée, et elle lui demandait s'il était heureux en elle, s'il était bien en elle, lui demandait de la garder toujours. Nuit des débuts, mortelles chairs en lutte, rythme sacré, rythme premier, reins levés, reins abaissés, coups profonds, rapides coups, impersonnels, implacabilité de l'homme, elle passionnément approuvant, soudain cambrée, allant au devant de l'homme.
Après l'ardeur, reconnaissante aux yeux cernés, elle lui caressait doucement l'épaule nue, lui parlait de ce qu'elle appelait leur union, lui disait tout bas la joie qu'il lui avait donnée, lui demandait plus bas encore s'il avait été heureux par elle. À son tour, il commentait, conscient du ridicule de cette exégèse lyrique, mais peu lui importait, et nulle femme jamais ne lui avait été aussi désirable. Il aimait ses trêves de douceur, ses caresses, leur causerie amicale, leur baiser fraternel. Entre humains de nouveau, pensait-il, et il se blottissait contre elle qui délicatement lui charmait les cheveux.
La vie, c'est comme une danse. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de marcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, qu'il faut vous l'arracher. La vie.
Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette manie que tu as de te promener toujours toute nue ?
Où ça, toute nue ? J'avais ma chemise de jour.
C'est encore plus indécent. On te voit au travers comme dans du papier calque.
Ah, voilà, voilà, dis-le donc. Voilà où tu veux en venir. Tu voudrais que j'aie des chemises en calico ?
Quoi ? Quoi, des chemises en calico ? Qui est-ce qui te parle d'avoir des chemises en calico ?
Je suis désolée, mon cher, mais toutes les femmes de ma condition ont des chemises en linon. Je ne vois pas pourquoi j'aurais les miennes en madapolam. Ah, ben merci, qu'est-ce que diraient les gens ?
Les gens ? Quels gens ? Tu vas donc montrer tes chemises aux gens ?
Moi ? Moi, je vais montrer mes chemises aux gens ? Tu m'accuses de montrer mes chemises aux gens ? Voilà où tu en arrives.
Mais non, ne fais donc pas toujours dévier la conversation pour prendre l'offensive. Je ne t'accuse de rien du tout. Je ne te demande pas d'avoir des chemises en calico ni en madapolam. Je te demande simplement, quand ton fils est dans ta chambre, d'avoir la pudeur de ne pas te déshabiller devant lui.
Ah, ben tu as de l'aplomb, c'est juste ce que j'ai fait.
Ah bah, non, tu sais, tu parles d'aplomb.
Absolument, et c'est encore une preuve de ton éternelle injustice. Essayez donc de faire plaisir aux gens. Comme je sais tes idées étroites et que vous étiez tous les deux dans ma chambre, j'ai été exprès me déshabiller dans mon cabinet de toilette.
Oui, seulement, une fois que tu as été en chemise de jour, tu es arrivé dans ta chambre. Au choix, j'aurais préféré le contraire.
Mais c'était pour prendre ma chemise de nuit.
Oui, oh, tu as toujours de bonnes raisons. Mais d'abord, quel besoin as-tu de te mettre en chemise de nuit à 4h de l'après-midi ?
Tiens, tu es bon, toi. On voit que ce n'est pas toi qui es allé crever de chaleur au mariage de la petite du chaumier. Et tiens, encore ça, pour qui y ai-je été, hein ? C'est pour toi, c'est pas pour moi, bien sûr. Pour t'épargner une corvée, comme toujours. Car enfin, ce n'est pas moi qui suis le collègue du père de la chambre. Je ne suis pas députée, moi, c'est toi. Tu as une façon de me remercier.
Il ne s'agit pas de te remercier.
Oh, je sais, tout est dû. Un remerciement de ta part, je suis encore à l'attendre. N'empêche que quand je suis rentrée en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de me mettre à l'aise. Je crois que c'est permis.
Eh bien oui, ça j'admets.
C'est encore heureux. Parbleu, tu es au frais ici. Tu ne te doutes pas que dehors, nous avons au moins 35 ou 36 degrés de latitude.
De latitude ?
36 degrés, parfaitement.
Quoi, de latitude ? Que ça veut dire, ça, de latitude ?
Tu ne sais pas ce que c'est que la... latitude ? Eh bien, c'est triste à ton âge. Latitude, c'est le thermomètre.
Ah, je te demande pardon, j'ignorais.
C'est pas la peine d'avoir été au collège. Quand on pense que par 36 degrés de latitude, tu nous imposes encore d'être à Paris. Tout ça parce que tu es député et que tu ne peux pas quitter la chambre avant la fin de la session. Je te demande un peu, comme si la chambre ne pouvait pas se passer de toi.
Mais, ma chère amie, nous ne sommes pas à la chambre pour que le pays soit tranquille. C'est pas pour ça que nous sommes élus. Et puis enfin, nous sortons de la question. Je te demande pourquoi tu te promènes en chemise, tu me réponds en faisant le procès du parlementarisme. Ça n'a aucun rapport.
Je te demande pardon, ça en a. Parce qu'à cause de ton parlement, nous sommes encore à Paris par 36 degrés de latitude. Parce que par 36 degrés de latitude, je suis en transpiration. Parce qu'étant en transpiration, j'ai éprouvé le besoin de changer de chemise. Et que parce que j'ai changé de chemise, tu as éprouvé toi le besoin de m'attraper.
Je ne t'ai pas attrapé parce que tu as changé de chemise. Je t'ai simplement attrapé parce que tu te promenais devant ton fils en chemise transparente.
Et est-ce que c'est de ma faute si on voit au travers ?
Non, mais c'est de ta faute si tu entres avec dans ta chambre.
Ah non, ça c'est le comble. Je n'ai plus le droit d'entrer dans ma chambre maintenant. Où veux-tu que j'aille me déshabiller ? À la cuisine ? À l'office ? Devant les domestiques ? Ah, c'est pour le coup que tu crierais comme un putois.
Cette mauvaise foi dans la discussion.
Il n'y a pas de mauvaise foi, je suis chez moi dans ma chambre. C'est vous qui n'aviez pas besoin d'y être. Je ne vous ai pas demandé d'y venir, n'est-ce pas ? Eh bien, si ma tenue vous gênait, vous n'aviez qu'à vous en aller.
Voilà, voilà sa logique.
C'est vrai ça, me faire une scène parce que je suis entrée en chemise de jour. Mais comment voulais-tu que je fasse puisque ma chemise de nuit était dans ma chambre ?
Eh bien, j'étais là. Tu n'avais qu'à me la demander, je te l'aurais apportée.
Alors c'était la même chose, tu m'aurais vue toute nue.
Mais moi, je suis ton mari.
Eh bien, lui, c'est mon fils.
Oh non, c'est à décourager. Alors tu trouves que c'est pareil ?
Mais c'est plus près ?
Oh !
En somme, toi, quoi ? Tu es un étranger pour moi. Tu es mon mari, mais c'est une convention. Quand je t'ai épousée, je ne sais pas pourquoi.
Merci.
Je ne te connaissais pas et crac, du jour au lendemain, parce qu'il y avait un gros monsieur en ceinture tricolore devant qui on avait dit oui, c'était admis. Tu me voyais toute nue ? Eh ben, ça, c'est indécent.
Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur et le fruit lui-même. La feuille et la fleur n'en sent la couleur. Qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère. Comme un pauvre enfant que rien ne défend. Vous me laissez là dans ma vie. Et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez rêvant frapper à ma porte. Amis comme avant, vous viendrez rêvant. Et l'on vous dira, personne, elle est morte. On vous le dira, mais qui vous plaindra?
Puisque l'amour, ça se termine pas toujours bien, mieux vaut se tourner vers l'amitié qui est souvent beaucoup plus sûre. Ainsi que la célèbre Jean de La Fontaine dans la fable Les deux amis. Deux vrais amis vivaient au Monomotapa. L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre. Les amis de ce pays-là valent bien, dit-on, ceux d'une autre. Une nuit que chacun s'occupait au sommeil et mettait à profit l'absence du soleil, un de nos deux amis sort du lit en alarme. Il court chez son intime et veille les valets. Morphée avait touché le seuil de ce palais. L'ami couché s'étonne, il prend sa bourse, il s'arme, vient trouver l'autre et dit « Il vous arrive peu de courir quand on dort. Vous me paraissiez homme à mieux user du temps destiné pour le somme. N'auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu? En voici. S'il vous est venu quelque querelle, j'ai mon épée, allons. Vous ennuyez-vous point de coucher toujours seul? Une esclave assez belle était à mes côtés. Voulez-vous qu'on l'appelle ?» « Non, dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point, je vous rends grâce de ce zèle. Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu, j'ai craint qu'il ne fût vrai, je suis vite accouru. Ce maudit songe en est la cause. Qui d'eux aimait le mieux, que t'en semble, lecteur? Cette difficulté vaut bien qu'on la propose, qu'un ami véritable est une douce chose. Il cherche vos besoins au fond de votre cœur, il vous épargne la pudeur de les lui découvrir vous-même. Un songe, un rien. » Tout lui fait peur quand il s'agit de ce qu'il aime.
Quel meilleur ami que le meilleur ami de l'homme, tel que le célèbre dans son long roman en vers, Jocelyn, Alphonse de Lamartine.
Je me souviens d'avoir eu pour ami, dans mon enfance, un chien. Une levrette blanche au museau de gazelle, au poil ondé de soie, au cou de tourterelle, à l'œil profond et doux comme un regard humain. Elle n'avait jamais mangé que dans ma main, répondu qu'à ma voix, couru que sur ma trace, dormi que sur mes pieds, ni flairé que ma place. Quand je sortais tout seul et qu'elle demeurait, tout le temps que j'étais dehors, elle pleurait. Pour me voir de plus loin aller ou reparaître, elle sautait d'un bond au bord de ma fenêtre, et, les deux pieds collés contre les froids carreaux, regardait tout le jour à travers les vitraux. Ou, parcourant ma chambre, elle y cherchait encore la trace, l'ombre au moins du maître qu'elle adore, le dernier vêtement dont je m'étais couvert, ma plume, mon manteau, mon livre encore ouvert, et l'oreille dressée au vent pour mieux m'entendre, se couchant à côté, passait l'heure à m'attendre. Dès que sur l'escalier mon pas retentissait, le fidèle animal à mon bruit s'élançait, se jetait sur mes pieds comme sur une proie, m'enfermait en courant dans des cercles de joie, me suivait dans la chambre au pied de mon fauteuil. Paraissant endormi, me surveillait de l'œil. Là, le son de ma voix, la plainte inachevée, ma respiration plus ou moins élevée, le moindre mouvement du pied sur le tapis, le clignement des yeux sur le livre assoupi, le froissement léger du doigt entre la page, Une ombre, un vague éclair passant sur mon visage, semblait dans son sommeil passer et rejaillir, d'un contre-coup soudain la faisait tressaillir. Ma joie ou ma tristesse en son œil retracé n'était qu'un seul rayon d'une double pensée.
Un seul chien, c'est un peu mesquin. Alexandre Dumas voyait beaucoup plus grand.
Je quittais donc Saint-Germain pour aller habiter au Port Marly, la fameuse maison qui fut baptisée depuis par Madame Mélingue, du nom de Monte Cristo, et qui fit tant de bruit depuis de par le monde. Michel avait dès longtemps pris toutes ses dispositions pour le logement des animaux. Je dois dire qu'il s'était beaucoup moins préoccupé du mien et même du sien.
Je ne sais pas dans quel état est Monte Cristo aujourd'hui. Ce que je sais, c'est que, de mon temps, il n'y avait jamais eu ni mur, ni fossé, ni haie, ni clôture quelconque. Il en résulte que les gens, comme les bêtes, pouvaient entrer à Monte Cristo, s'y promener tout à leur aise, cueillir les fleurs, cueillir les fruits, sans crainte d'être prévenus de vol avec escalade ou effraction. Quant aux animaux, et c'est des chiens particulièrement que je veux parler, Pritchard, qui était fort hospitalier de sa nature, leur faisait les honneurs de la maison avec une désinvolture et un désintéressement tout écossais. Cette hospitalité s'exerçait, de la part de Pritchard, de la façon la plus simple et la plus antique.
Il s'asseyait au beau milieu de la route de Marly, allait à tout chien qui passait, avec ce grognement moitié menaçant, moitié amical, qui constitue la manière de s'aborder des chiens, souhaitait le bonjour au nouveau venu en lui flairant sous la queue, et se prêtait sans répugnance aucune à la même cérémonie.
Puis, quand la sympathie s'était développée à l'aide de ses attouchements, la conversation s'engageait à peu près en ces termes.
« As-tu un bon maître ?» demandait le chien étranger.
« Pas mauvais, répondait Pritchard. »«
Est-on bien nourri chez ton maître ?»«
Bah, on a la pâtée deux fois par jour, des os au déjeuner et au dîner, et pendant le reste de la journée, ce qu'on peut voler à la cuisine. »
Le chien étranger se léchait les babines.
« Peste, disait-il, tu n'es pas malheureux. »«
Je ne me plains pas. » répondait Pritchard.
Puis, voyant que le chien étranger devenait pensif,
« Te plairait-il, lui disait Pritchard, de dîner avec nous ?»
Les chiens n'ont pas, dans ce cas, la sotte habitude qu'ont les hommes de se faire prier. Le convié acceptait avec reconnaissance. Et, à l'heure du dîner, j'étais fort étonnée de voir entrer à la suite de Pritchard un animal que je ne connaissais pas, qui s'asseyait à ma droite si Pritchard s'asseyait à ma gauche, et qui allongeait sur mon genou une patte solliciteuse, de manière à me prouver que les meilleurs rapports lui avaient été faits sur ma charité chrétienne.
Invité sans doute par Pritchard à passer la soirée avec lui, comme il y avait passé la journée, le chien restait, trouvait le soir qu'il était trop tard pour retourner chez lui, se couchait à un endroit ou à un autre sur le gazon, et passait là sa grasse nuit. Le matin, au moment de s'en aller, le chien faisait 3 ou 4 pas vers la porte, puis, se ravisant, disait à Pritchard.
« Est-ce que ce serait bien indiscret si je restais dans la maison ?»
Pritchard répondait.
« Avec certains ménagements, tu pourras parfaitement faire croire que tu es le chien du voisin. Au bout de 2 ou 3 jours, on ne fera plus attention à toi et tu seras de la maison. Ni plus ni moins que ces fainéants de singes qui ne font rien de la journée, que ce gourmand de vautour qui ne fait que manger des tripes et que ce piaillard d'ara qui crie toute la journée sans savoir ce qu'il dit. »
Le chien restait, se dissimulait le premier jour, me faisait la révérence le second, sautait après moi le troisième. Et il y avait un hôte de plus dans la maison. Cela dura jusqu'à ce que Michel me dit un jour.
« Monsieur, sait-il combien de chiens il y a ici ?»«
Non, Michel, répondis-je. »«
Monsieur, il y en a 13. »«
C'est un mauvais compte, Michel. Et il faut prendre garde qu'ils ne se mettent à table tous ensemble. » Il y en aurait infailliblement un qui mourrait le premier.
Mais ce n'est pas cela, monsieur, me dit Michel.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est que ces gaillards-là mangeraient par jour un bœuf avec ses cornes.
Croyez-vous qu'ils mangeraient les cornes, Michel ? Moi, je ne crois pas.
Ah, si monsieur le prend comme cela, je n'ai rien à dire.
Vous avez tort, Michel. Dites, je le prendrai absolument comme vous voudrez.
Eh bien, si monsieur veut me laisser faire, je prendrai tout simplement un fouet et je mettrai tout ça à la porte dès ce matin.
Michel. « Mettons-y des formes. Tous ces chiens, au bout du compte, en restant ici, rendent hommage à la maison. Donnez-leur aujourd'hui un grand dîner, prévenez-les que c'est le dîner d'adieu, et au dessert, vous les mettrez tous à la porte. »«
Comment, monsieur, veut-il que je les mette à la porte ? Il n'y en a pas de porte. »«
Michel, repris-je, il faut supporter certaines charges qui sont les conditions du terrain, de la position sociale, du caractère que l'on a le malheur d'avoir reçu du ciel. » puisque les chiens sont dans la maison. Eh, hey, mon Dieu, qu'ils y restent! Je ne crois pas que ce soit les bêtes qui me ruinent jamais, Michel. Seulement, dans leur intérêt, veillez à ce qu'ils ne soient plus 13, mon ami.
Monsieur, j'en chasserai un, afin qu'il ne soit plus que 12.
Non, Michel, laissez-en venir un, au contraire, afin qu'il soit 14.
Michel poussa un soupir. Si c'était une meute encore, murmura-t-il.
C'était une meute, une singulière meute. Il y avait un loup de Vienne, il y avait un caniche, il y avait un barbet, il y avait un griffon, il y avait un basset à jambes torses, il y avait un faux terrier, un faux King Charles, il y avait jusqu'à un chien turc qui n'avait de poils par tout le corps qu'un plumet sur la tête et une bouffette au bout de la queue.
Eh bien, tout ça vivait ensemble dans la meilleure harmonie du monde. C'était à donner des leçons de fraternité à un phalanstère ou à une confrérie de frères moraves. Il y avait bien à l'heure des repas quelques coups de dents donnés et rendus à droite et à gauche. Il y avait bien quelques querelles d'amour dans lesquelles, comme toujours, le plus faible était vaincu. Mais la plus touchante harmonie, il faut le dire, se rétablissait dès que j'apparaissais dans le jardin. Alors, pas un qui, si paresseusement étendu qu'il fût au soleil, qui, si douillettement qu'il fût couché sur le gazon, qui, si amoureusement qu'il causât avec sa voisine, n'interrompit son repos, sa sieste, sa causerie, pour venir à moi, l'œil tendu et la queue agitée.
Tout cela essayait de me prouver sa reconnaissance, chacun à sa façon. Les uns en se glissant familièrement entre mes jambes, les autres en se dressant sur leurs pattes de derrière et en faisant ce qu'on appelle les beaux, les autres enfin en sautant par-dessus la canne que je leur tendais, soit pour l'empereur de Russie, soit pour la reine d'Espagne, mais refusaient avec une obstination toute classique de sauter pour ce pauvre roi de Prusse, le plus humble et le plus populaire de tous les monarques, non seulement parmi son peuple, mais parmi les chiens de toutes les nations du monde.
On recruta une petite épagneule nommée Lisette, et le nombre des chiens fut porté à 14. Eh bien, ces 14 chiens, tout compte fait, me coûtaient 50 ou 60 francs par mois. Un seul dîner donné à 5 ou 6 de mes confrères m'eût coûté le triple, et encore fussent-ils certainement sortis de chez moi en trouvant mon vin bon peut-être, mais à coup sûr, ma littérature mauvaise.
Alexandre Dumas et ses chiens nous ont fait sourire, finissons en partageant le plus grand et le plus humain des plaisirs, qui est celui de rire.
Rire.
Je ris.
Je ris.
Nous rions.
Plus rien ne compte, sauf ce rire que nous aimons.
Il faut savoir être bête et content.
Avec les voix de
Thibaut,
Agnès,
Anaïs,
Armand,
Elsa,
en l'absence de Lucie, Aphone, Muriel et Hera qui passent un partiel, et Mélissa occupée ailleurs.